Même si toutes les horloges nous rapprochent de ta venue, même si le temps qui passe est oublié, révolu, même si notre saison se pose sur nous comme une échéance, gardons la foi. Gardons l'espoir, car n'est pas vaine, ô Jésus, ta souffrance. Même si notre chemin est difficile à parcourir, même si notre destin nous amène murmures et soupirs, même si l'amour donné semble perdre sa puissance, gardons la foi. Gardons l'espoir, car n'est pas vaine, ô Jésus, ta souffrance. Seigneur Jésus, tu es venu sur cette terre sans compter, sans discuter, pour nous pardonner de nos péchés. Alors, gardons la foi, gardons l'espoir, car n'est pas vaine, ô Jésus, ta souffrance. Même si toutes les horloges nous rapprochent de ta venue, même si le temps qui passe est oublié, révolu, même si notre saison se pose sur nous comme une échéance, gardons la foi. Gardons l'espoir, car n'est pas vaine, ô Jésus, ta souffrance. Car n'est pas vaine, ô Jésus, ta souffrance.
C'est des beaux chants, hein?
Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Eh bien, ce matin, on va continuer sur le thème du zodiaque. Évidemment, je ne l'aborde pas comme les gens de ce monde, n'est-ce pas? C'est obligé. Hein? On va se lever, on va étudier, on va regarder un verset dans la Bible, deux, trois versets, dans Galates 3, 26 à 28. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est-à-dire immergés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, que nous comprenions bien tout ce qu'il y a à comprendre pour que nous puissions traduire en acte. Nous avons parlé beaucoup, n'est-ce pas, au sujet de la puissance, de l'influence des lois du ciel, pas seulement sur Internet, mais aussi dans la communauté. Le vendredi soir, on a toute une étude sur Enoch, par rapport au livre d'Enoch et aux commentaires que je fais, que je donne sur Révélation Bible. Et puis nous étudions ça ensemble, on parle, on pose des questions, on réfléchit, et c'est magnifique, et on s'aperçoit que beaucoup de choses ont été réglées dans le ciel. Et on voit aussi dans Job, donc comme je vous disais dans la première prédication, que Dieu demande à Job, au sujet des lois du zodiaque, il lui dit « Règles-tu son pouvoir sur la terre ?» Il se moque un peu de Job, il essaie de le faire descendre un petit peu pour qu'il réalise qu'il n'est pas Dieu. Alors nous avons déjà étudié 9 pouvoirs qui nous viennent d'en haut, qui nous viennent de Dieu. Les influences, 9 influences. Alors ces puissances, ces pouvoirs, cette influence, toutes ces choses nous viennent d'en haut, elles viennent à notre rencontre. Et ce sont nos pouvoirs humains ici-bas qui les accueillent. Vous voyez, il y a quelque chose en haut et quelque chose en bas. Il y a une rencontre, il y a une communion. La communion avec Christ, ce n'est pas autre chose qu'une rencontre d'esprit et donc de puissance. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit, donc c'est une question de puissance, une question de pouvoir. Pratiquer l'astrologie, c'est un péché. Hein, Deutéronome 18, 10, 4, c'est très clair, on n'a pas le droit. C'est absolument interdit par Dieu. Cependant, Dieu dit qu'il règle son pouvoir sur la terre. Et quand on étudie la nature, on découvre que tout répond à des lois bien précises et prédéterminées. Vous êtes d'accord que c'est des lois prédéterminées? Ah, c'est bien. Une des grandes lois de la création de Dieu, c'est la loi de cause à effet. Et rien n'a été créé en vain. Il n'y a rien qui a été créé en vain. Des fois, quand je regarde à la télévision des émissions sur les fonds marins, toutes ces choses, mais pourquoi Dieu s'amuse à créer des trucs pareils alors qu'on ne les voit même pas? Et pourquoi est-ce que Dieu a fait des... Mais il y a des beautés, il y a des merveilles, et on ne les voit pas. Hier soir, il y avait une émission sur les volcans en Islande. C'est magnifique. Est-ce que vous avez regardé? C'est magnifique. Il y a des choses splendides. Et Dieu n'a rien créé en vain. Tout a été créé et tout est gouverné par des lois précises qu'il a prédéterminées. Et il y a des lois du mouvement, il y a des lois de transformation, il y a des lois de diffusion. Alors, on peut se poser la question, pourquoi tout cela existe-t-il? La question, elle est posée, mais la réponse appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas, parce que nous ne pouvons connaître, on ne peut rien connaître au-delà de ce que nos sens peuvent analyser, peuvent ressentir. On a conscience qu'il y a autre chose, mais on ne peut pas l'appréhender, on ne peut pas le ressentir, on ne peut pas l'analyser. Et Dieu nous a créés de façon à ce que nous ne souffrions pas du fait qu'il nous manque des organes sensoriels. Il nous manque des organes sensoriels. Mais on n'en souffre pas plus que, par exemple, vous ne souffrez pas d'avoir 6 doigts à chaque main. Voilà, on est comme ça, et c'est bien fait d'être comme ça. Dieu a bien fait les choses. Et nous savons par la Bible qu'il y a tout un monde spirituel, mais nos 5 sens ne suffisent pas à le ressentir, à le comprendre. Stéphane, il compte ses doigts pour voir s'il en a. Le pianiste. Nous savons qu'il y a un monde spirituel qui existe et nos sens ne peuvent pas analyser ça. C'est pour ça que quand j'entends des gens qui disent « j'ai senti la présence de Dieu », maintenant, Dieu nous révèle dans la Bible que nous avons un passé éternel. Et dans ce passé éternel, nous avons choisi en sa présence où et quand nous viendrions sur la terre. Nous avons aussi choisi avec quel penchant et quel caractère nous allons naître. Nous avons aussi choisi qui nous allions rencontrer. Vous savez ça? Et quel serait l'environnement dans lequel on va grandir? Tout cela est déterminé. Toutes nos actions, toutes nos réactions et leurs conséquences, tout ça est déterminé. Alors je pose la question, où est le libre arbitre dans toute cette affaire? Nous l'avons utilisé, notre libre arbitre, en Dieu, dans le passé éternel. En Dieu, nous avons le libre arbitre. En Dieu. De toute éternité. Et nous l'avons utilisé là, dans sa présence, en lui. Mais maintenant, nous ne sommes plus là-haut, nous sommes ici-bas. Mais grâce à Dieu, nous pouvons retourner en Dieu. Maintenant, nous sommes ici-bas pour manifester ce qui est en haut, ce qui a été prédéterminé. Nous le manifestons là, dans la matière, là où l'esprit vibre vraiment au ralenti. Quand notre esprit a été associé à notre corps, nous avons oublié notre esprit, notre véritable moi. Votre véritable moi, ce n'est pas votre âme, c'est votre esprit. Votre âme, elle était créée. Mais votre esprit, votre véritable moi, il a oublié votre passé éternel. Votre esprit a oublié votre passé éternel. Et ici-bas, tout est contrôlé par le système créé et ses lois parfaites. Et tout est bien ordonné avec l'aide de deux systèmes de force, la force de la lumière et la force des ténèbres. Point. Avec tout ce que ça comporte, évidemment. Et nous, la Bible nous enseigne, elle nous sert à nous connecter avec le monde de Dieu, avec la lumière. Toutes les lois morales, toutes les lois spirituelles que nous trouvons dans la Bible, et aussi dans la nature, quand on la contemple, on s'aperçoit, on voit la grandeur de Dieu, eh bien tout cela traite de notre arrivée ici-bas jusqu'à notre départ d'ici-bas. Voilà le message, voilà pourquoi la Bible. On n'a pas une Bible pour savoir combien d'années Joseph a vécu et pourquoi, et qu'est-ce qu'il a fait, et puis Jacob, et puis la couleur de ses cheveux, et puis tout. Vous voyez ? C'est pour nous apprendre. La parole de Dieu était écrite pour nous apprendre et nous sert. Elle est utile à partir du moment où nous sommes venus jusqu'au moment où on partira. On doit l'utiliser pour notre savoir-vivre ici-bas. La Bible nous parle aussi au sujet des actions du monde des esprits envers notre monde, parce qu'ils ont une action là. Et on sait qu'il y a de bons esprits, les anges, et puis on sait qu'il y a de mauvais esprits, les démons, je schématise. Hein. Et tout ce qui arrive, arrive pour conduire toute la création vers la réalisation du but ultime de Dieu. Et rien n'échappe à son contrôle, absolument rien. Mais on doit comprendre la profondeur des paroles de Jésus, on peut les prendre sur plusieurs degrés. Quand il dit, par exemple, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », qu'est-ce qu'il veut dire par là « Je suis le chemin » ? Eh bien, il est le chemin, nous entrons sur le bon chemin par la conversion, puis ensuite nous y marchons. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une image pour nous dire que nous progressons sur ce chemin, nous avançons vers le but qui nous a été prédéterminé, non ? Oui, bien sûr, nous y progressons, nous allons vers le but, parce que nous recevons sur ce chemin la vie, nous entrons dans le chemin, c'est-à-dire nous sommes baptisés dans le chemin, baptisés en Christ, comme nous venons de le lire, et nous sommes revêtus aussi de ce chemin. Nous sommes revêtus de Christ. Nous sommes entourés, nous sommes dedans, mais nous sommes entourés. Parce que nous sommes enseignés par la vérité, Jésus dit, je suis la vérité, nous avons la parole de Dieu, la vérité, nous avons l'esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Le chemin pour nous, qui sommes des esprits mis dans de la chair, tant que nous sommes dans la chair, ce chemin, il a un début et il a aussi une fin. Le début de ce chemin pour chacun de nous, c'est la nouvelle naissance. Consciemment, c'est la nouvelle naissance. En fait, nous avons toujours été en Christ, nous autres les chrétiens. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ne le sont pas. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et puis, ceux qui ne sont pas en Christ, c'est qu'ils ne sont pas de la descendance d'Abraham, point. Nous faisons la preuve, parce que nous sommes en Christ, que nous sommes de la descendance d'Abraham. Et nous avons toujours été. On ne le devient pas tout d'un coup. Je ne suis pas devenu... Attendez, je suis né, mon père, c'était Charles Genton, je ne peux pas changer de père. Eh bien, mon père céleste, c'est mon père céleste. Je ne peux pas avoir un deuxième père. Je ne peux pas changer de père parce que je me convertis. Non. D'accord ? Alors, le chemin, il a un début, c'est notre nouvelle naissance. Et il a une fin, c'est notre mort ou notre enlèvement. Parce que nous sommes arrivés. Quand nous mourons, nous arrivons. Enfin, au but, au bout. Et c'est magnifique. Mais il n'y a pas qu'un début et une fin. Il y a aussi deux côtés, deux bords au chemin. Vous avez déjà marché sur un chemin qui n'a qu'un bord, vous ? ou qu'il n'y a que le milieu, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de bout. Nous avons à marcher sur le chemin en Christ. C'est le chemin qui nous conduit au but, c'est-à-dire en haut, dans l'élévation, dans l'ascension spirituelle, jusqu'en haut, jusqu'à notre accomplissement, jusqu'à ce que nous soyons à l'image parfaite de Jésus-Christ. Et nous marchons d'un côté du chemin ou de l'autre du chemin. Un des deux côtés du chemin, c'est le bord qui est appelé souffrance. Et l'autre bord, c'est le bord qui est appelé la perfection consciente. C'est comme ça que je les appelle. Parce que j'y ai réfléchi, parce que j'ai prié, parce que j'ai des expériences, parce que j'ai vu dans la Bible, parce que j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a un bord qui s'appelle souffrance et puis il y a un bord qui s'appelle perfection consciente. Beaucoup de chrétiens souffrent par leur propre faute, parce qu'ils ont fait des bêtises, mais ce n'est pas de ça dont je vais parler ce matin. Ça, c'est une autre question. Mais d'autres souffrent selon la volonté de Dieu. C'est de cela dont je parle ce matin. Leurs souffrances sont utiles à Dieu. On trouve dans 1 Pierre 4, 19, Pierre dit, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu se placent entièrement sous la garde du Créateur. C'est-à-dire renoncent à tout et se placent entièrement. Ils sont appelés à renoncer, ils n'ont pas encore. On souffre selon la volonté de Dieu quand on sert le Seigneur dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Quand on va au travail, ce n'est pas pour gagner notre vie, mais c'est pour pouvoir la mettre au service de Dieu. Quand on va à l'école, ce n'est pas pour simplement apprendre, mais c'est pour être au service de Dieu, c'est pour se préparer pour notre vie future. Enfin, tout ce qu'on fait, quand on fait la cuisine, ce n'est pas simplement pour nourrir les frères et sœurs, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous faites, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et là, on souffre. Je ne parle pas ce matin, comme je vous le répète, de ceux qui souffrent parce qu'ils ont péché. Ça, c'est autre chose. Et puis, il y a le bord du chemin qui n'est que spirituel, c'est-à-dire le bord du chemin qui s'appelle le bord de la perfection consciente. Ce bord-là, c'est la réalisation spontanée d'un besoin de mettre un terme à l'égoïsme. Les chrétiens, au début, ils ont ça. Et puis après, quand ils voient le prix que ça coûte, parce que Jésus leur dit, voilà, vous pouvez choisir, hein, il y a le prix à payer, réfléchissez, est-ce que vous êtes prêts à payer? Quand ils voient ce que ça coûte, ils n'ont pas la force ou le courage, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, ils préfèrent le côté de la souffrance plutôt que de mettre un terme vraiment à l'égoïsme. Le bord du chemin souffrance est pour ceux qui sont appelés à ajouter en eux les souffrances qui manquent à Christ. Ils ont décidé ça déjà avant. Ils ont une utilité. Maintenant, il faut qu'ils le sachent. Et beaucoup de gens ignorent qu'ils ont cette utilité, que leur souffrance a une utilité. Il y a des souffrances qui manquent à Christ. Des souffrances qu'occasionne le service dans l'Église, pour l'Église. Colossiens 1, 24. Je n'invente rien. Mais j'en sais des choses qui ne sont pas courantes. C'est pourquoi peut-être ça choque un peu. Mais il faut le dire, ces choses-là. Il faut les expliquer, ces choses-là. Il faut les enseigner pour que les gens sachent. Le bord du chemin, perfection consciente, c'est le chemin de ceux qui gravissent l'échelle jusqu'au sommet en renonçant. En renonçant. Le chemin de ceux qui ont la conscience d'être en Christ. Les autres, sur l'autre bord, ils apprennent qu'ils sont en Christ. Ils le lisent, ils se mettent à y croire, ils le savent, ils sont en Christ, ils le savent. Mais il y a les autres sur l'autre bord, ils font plus que de le savoir, parce qu'ils l'ont appris, ils en ont pleinement conscience. Ils sont en Christ, ils en ont conscience. Même s'ils n'avaient pas lu un texte dans la Bible qui le dit. Une telle personne est tellement unie à Jésus-Christ qu'elle est un avec lui et elle en a conscience. En fait, tellement conscience qu'elle devient lui. Elle devient Christ, c'est-à-dire, vous allez dire, ah, voilà, les faux Christ. Non, non, non. Elle devient ointe, véritablement ointe. Christ, ça veut dire oint. Maintenant, au regard de Jésus-Christ, pour vous donner une idée de ce que cela est dans la pratique, au regard de Jésus-Christ, il n'y a ni haut, ni bas, ni noir, ni blanc, ni esclave, ni libre, ni masculin, ni féminin. On l'a lu. Vous voyez que c'est toute une autre vision. C'est toute une autre vision. Celui qui marche sur ce bord du chemin-là, il a renoncé à la dualité, il a renoncé à la dichotomie. Le monde soupire après cela. Le monde a inventé des philosophies pressentant qu'il y avait quelque chose comme ça qui existait. Et le monde a appelé ça le lâcher-prise. Mais il ne peut pas y arriver. Il va jusqu'à un certain point, mais il ne peut pas y arriver. En dehors du chemin, en dehors de Jésus-Christ, il ne peut pas y avoir de lâcher-prise. Il ne peut pas y avoir de renoncement. Parce que la nature a horreur du vide. Mais celui qui est sur le chemin et qui a renoncé, il ne se trouve pas vide, il se trouve rempli du Saint-Esprit. C'est ça, être Christ, être oin. Ceux qui marchent de ce côté du chemin ont les yeux fixés sur le haut, c'est-à-dire sur l'adoption finale. Tout le reste leur paraît comme du fumier. L'apôtre Paul dit du fumier, et Louis II, qui est très poli, dit de la boue, parce qu'il est très poli. Frères et sœurs, vous faisiez un avec Dieu en haut dans votre passé éternel. Chacun de ceux qui sont nés de nouveau font la preuve qu'ils descendent de lui par leur comportement. Découvrez maintenant votre essence, découvrez qui vous êtes des fils et des filles de Dieu, vous êtes l'expression de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi ce verset « Faites tout sans murmure ni hésitation » devient possible. Mais comment voulez-vous ne pas hésiter quand vous n'êtes pas certain? Il ne suffit pas de savoir parce qu'on a appris, mais il faut que ça soit la vie. Je suis le chemin, la vie, la vérité, mais la vie aussi. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est le soleil de justice. La Bible nous dit qu'il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes d'autres créations par la suite. Ça ne veut pas dire que Jésus est créé, mais il est Dieu dans sa création. Je vous l'ai déjà enseigné par ailleurs, Colossiens 1,15. Et vous êtes un des astres qui tourne autour du soleil. Jésus-Christ étant le soleil de justice. Et le soleil vous insuffle la lumière, le soleil vous insuffle la vie, comme le soleil qui parcourt les 12 signes du zodiaque, Jésus-Christ, notre soleil de justice, insuffle la lumière dans nos 12 facultés. Souvenez-vous, on en a vu 9. La perception spirituelle, la conviction, l'amour, la douceur, l'imagination, le doute, le désir, l'ordre. Et vendredi passé, on a vu le sentiment de manque. C'est des facultés, c'est des puissances que nous devons maîtriser afin d'arriver au but ultime. Et rien n'échappe aux rayons du soleil. Rien n'échappe aux rayons qui sortent des mains de Dieu. Habakkuk 3:4. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Pour marcher de ce côté du chemin, il faut d'abord en ressentir le besoin, et puis ensuite se discipliner, discipliner nos 12 facultés. Les mettre en communion avec les rayons qui sortent de la main de Dieu, c'est-à-dire les mettre en rapport avec la volonté agissante de Dieu, déclarée mais agissante de Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent se mettre en communion avec Dieu et pensent que c'est une question d'émotion. Ce n'est pas une question d'émotion. Si vous pensez qu'entrer en communion avec Dieu, c'est ressentir quelque chose, vous êtes profondément dans l'erreur parce que ça, c'est la chair. C'est par la chair, vous ressentez quelque chose. C'est vrai, ça peut être la présence de Dieu. Mais c'est inutile si c'est en dehors de la volonté, si c'est en dehors des exigences, si c'est en dehors des ordonnances de Dieu. C'est pour les bébés spirituels. On ne demande rien à un bébé. On le nourrit, on lui donne. Et ça, c'est ce que Dieu fait avec beaucoup de chrétiens. Il nourrit, il leur donne. Mais maintenant, il faudrait aussi que ça vienne pas seulement d'en haut vers le bas, mais il faudrait que ça vienne du bas vers le haut. C'est-à-dire, mais maintenant, Père, je m'occupe de tes affaires. C'est ça, entrer en communion avec Dieu. Alors, vous devenez conscient à ce moment-là vous vous savez et vous constatez que vous êtes une émanation divine. Et alors, vous réduisez en miettes les religions organisées par les charnels. Pourquoi ? Parce que ça ne vous dit rien. Vous y renoncez aussi facilement qu'à n'importe quelle chose de cette terre. Voilà pourquoi il vous est facile d'obéir à ce commandement. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de toutes ces religions qui sont des fabrications humaines, qui limitent notre perception des choses de Dieu, à des dogmes. Vous ne pensez pas que vous avez des dogmes. Mais si vous étiez né au 15e siècle, votre croyance se manifesterait autrement qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'Église change. Mais Dieu ne change pas. Les grands mystiques du 15e siècle sont de la même essence que les grands mystiques du 21e siècle. Absolument, parce que Dieu ne change pas. Les religions changent. Alors laissez tomber ça. C'est des miettes, c'est rien. Ça peut être un tremplin, ça peut vous aider. Moi, ça m'a aidé à découvrir Jésus. Mais maintenant, ça suffit. Il faut entrer en communion avec Dieu. Le but des cinq ministères de la parole, c'est justement de recréer l'image de l'homme idéal, de la femme idéale. Nous savons que Jésus-Christ, c'est l'homme idéal. Ça, c'était Adam au départ. Mais Adam n'était pas fini, il n'avait pas encore la connaissance du bien et du mal. Et plutôt que d'attendre que Dieu lui donne la connaissance du bien et du mal, il l'a volé. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu en tant qu'homme idéal, complet, ayant la connaissance du bien et du mal, sans jamais pécher. Et c'est là, les cinq ministères, les prédications, les écrits, toutes ces choses qui sortent, c'est des choses de la parole de Dieu qui sortent pour vous amener, pour vous conduire à l'image parfaite, à recréer cette image parfaite de l'homme idéal. Alors, on n'a pas à adorer cette image de Jésus d'il y a 2000 ans. L'apôtre Paul, il dit, mais nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. C'est fini cette histoire. C'est bien de raconter les histoires que Jésus a vécues, de lire les évangiles. Et tout. C'est inspirant, c'est bien. Mais ce n'est pas comme ça que vous êtes en communion avec Dieu. Ça, c'est des histoires passées. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Mais Michel, il y a des prophètes vivants aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu écoutes ce prophète Branham mort ?» Parce que son message n'est pas mort. Le message de Jésus n'est pas mort. Mais Jésus, lui, là, cet homme qui a multiplié les pains, les poissons, c'est terminé cette histoire-là. Ça, c'est fini. C'est maintenant qu'il veut faire des choses. Il veut les faire au travers de vous, au travers de moi. Maintenant. Le message a été donné, maintenant ça y est, il faut le vivre, arrêtez de toujours ressasser ces histoires. C'est bien, mais il faut dépasser ça. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas déjà la connaissance de ces choses, de la parole de Dieu. Un jour, je me trouvais dans une conférence avec des chrétiens, puis après il y avait des petits cercles, et puis on discutait, on était comme ça à 10, et puis je ne sais pas comment on en est venu à discuter de cela, et je dis... Oui, mais de toute façon, il y avait un danger dans le jardin d'Éden, puisque Adam et Ève devaient garder le jardin. Et tous, ils se sont levés comme un seul homme. Comment ça ? Il y avait un danger, il n'y avait rien à garder, ce n'est pas écrit. Ah ! Ils ne connaissaient pas. Mais aucun. Ils ne savaient pas que Adam et Ève avaient le devoir de garder. Donc, si on garde un jardin, c'est bien qu'il y a un danger. Ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas compris. Donc, ils ne connaissaient pas l'histoire pré-adamique, ils ne connaissaient rien de tout ça. Et puis, mais ils sont chrétiens quand même, mais ils ne connaissent déjà pas les Écritures. Comment voulez-vous connaître Dieu en esprit si déjà vous ne connaissez pas les Écritures ? Ça fait peur, ça donne le vertige. Nous ne connaissons plus Jésus selon la chair, dit Paul, 2 Corinthiens 5,16. Il dit aussi que nous ne connaissons plus personne ni rien. Selon la chair. Ouh, est-ce que vous en êtes là ? Frères et sœurs, connaissez-vous Christ en esprit ? Attention, ne dites pas « oui », ne dites pas « amen », comme dans les églises, bêtement. Si vous ne connaissez pas vos frères et sœurs en esprit, c'est impossible que vous connaissiez Christ en esprit. Impossible. Vous voyez, il y a des degrés. Il y a un début du chemin. Il y a une marche pour arriver au bout du chemin. Et pendant cette marche entre notre nouvelle naissance et notre mort ou notre enlèvement, il y a des progrès à faire. Est-ce que vous avez progressé depuis l'année passée ou vous êtes toujours avec vos mêmes croyances en train de tourner en rond ? Ou est-ce que vous avez évolué dans votre connaissance du Père? Et puis, il y a deux bords du chemin. Vous voyez que c'est pas... Arrêtez de croire comme un enfant. C'est bien de croire comme un enfant. Mais après, il faut réfléchir. Il faut devenir un adulte spirituellement. Alors, il faut être perdu. On peut se perdre sur ce chemin si on n'est pas en communion avec Christ. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent sur le bord du chemin. Ils sont assis sur une borne. Ils sont assis là. Et puis voilà. Ah ben ils sont sur le chemin, mais ils ne progressent plus, ils sont assis. Ils sont inutiles pour Dieu, inutiles pour leurs frères et sœurs. Ils sont assis. Ils demandent quelque chose? Non. Un petit peu comme à la ferme de la célébrité. Il faut aller vider la mare au canard. Ah ben non, ça m'embête. Ah ben je le ferai quand j'aurai envie. Ils n'ont pas renoncé à leur vie. Vous voyez, c'est la ferme de la célébrité, ce n'est plus l'Église. Hein. Être perdu, c'est ne pas être en communion. C'est ne pas être connecté avec la source. C'est s'arrêter aux apparences. C'est s'arrêter aux actions parfois malheureuses ou aux paroles parfois coupables des frères et des sœurs en Christ. Mais c'est s'arrêter là, en Jésus-Christ. Ce n'est pas la même chose. En Christ, il n'y a plus aucune condamnation. On renonce au jugement, on renonce à la condamnation, on renonce. Vous voyez, c'est immense le message de Jésus-Christ, c'est immense. Alors il y a le côté... Et si vous ne renoncez pas, ben vous souffrez. C'est pour ça que vous souffrez. Parce que vous êtes en train de vous occuper de l'Église. Comme l'apôtre Paul, il se faisait du souci. Jésus a dit, mais ne te soucie pas. Il se faisait du souci. Il se rendait malade pour l'Église. Jésus... Mais c'est bien. C'est bien, si vous voulez. C'est prédéterminé. C'était son chemin. Mais il a évolué. Mes frères et sœurs de la communauté, Michou, ma chérie, vraiment, je ne cherche plus la parole perdue. Elle n'est plus perdue. Je suis en communion avec elle. Parce que la parole perdue n'est plus perdue. Elle mange à ma table tous les jours. Elle mange à ma table tous les jours. Elle est au milieu de vous, elle est au milieu de nous. Voilà la parole. Elle est marquée d'une étoile brillante, bien plus brillante que le buisson ardent. Très joli le buisson ardent. Mais maintenant nous avons l'astre du jour, le Seigneur Jésus-Christ. Et cet astre ne s'éteindra jamais, il est éternel. Et il vit en vous et vous êtes en lui. Il a dit, je frappe à la porte de l'église de Laodicée, et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'irai chez lui et je mangerai avec lui. Je mange avec lui tous les jours. C'est ce que nous vivons. Alors, de quel côté du chemin vivez-vous? Côté souffrance ou côté ascension spirituelle? Vous êtes sur le chemin, personne ne peut rien vous dire. De plus, vous ne pouvez même pas choisir. Vous ne pouvez même pas choisir. C'est prédestiné. Vous avez déjà fait le choix dans votre passé éternel de ce que vous faites maintenant. Mais alors Michel, à quoi ça sert tout ce que tu nous dis là? Eh bien, juste, si vous vous sentez attiré par le côté perfection consciente, si vous vous sentez attiré, si vous avez une sainte jalousie, c'est bon signe, c'est que quelque chose a été prédéterminé par Dieu et par vous dans le passé éternel. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prier. Priez, n'essayez pas de faire autre chose. Priez. Mettez vos facultés bénies en communion avec les 12 puissances qui viennent des mains, des rayons de Dieu. Mettez-vous en communion avec Dieu. C'est tout. Entrez en communion d'esprit. Et voyez comment les choses vont se mettre en place. Il y a une harmonie. Et voyez comment les choses vont se mettre en ordre pour que vous entriez en pratique sur le bord du chemin qui vous fait tant soupirer. Jésus l'a dit, Matthieu 19, 21, si tu veux être parfait, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Bon, vous devez être parfait, c'est vrai, Matthieu 5, 48, c'est-à-dire marchant, progressant, sur le chemin. Ça, c'est être parfait, c'est être dans la perfection qui se qui se développe. Qui, c'est comme en ce moment, les arbres, on dirait qu'ils sont morts, mais ce n'est pas vrai. Ils sont en train de... les bourgeons vont venir et la vie est là. Ce n'est pas mort. Eh bien, tant que vous êtes dans le chemin, vous êtes parfait. C'est-à-dire, en chemin, vous avez peut-être l'air mort, mais ce n'est pas vrai. De toute façon, sur ce chemin, vous partez à la perfection. Mais ici-bas, vous y marchez dans la souffrance, alors que vous pourriez marcher consciemment dans la perfection, sans se soucier. Des bêtises, on ne sait rien, c'est pas grave. Je suis vieux, et alors? Je suis jeune, et alors? J'ai de l'argent, et alors? J'en ai pas, et alors? Je suis malade, et alors? Je suis pas malade, et alors? Je suis chauve, et puis, quoi? Hein? Qu'est-ce que ça peut faire? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Le renoncement à tout. Renoncer. Voyez, mes frères et sœurs, sur ce chemin. Alors, c'est vrai que frère Branham, il dit qu'il faut marcher au milieu du chemin. Il a raison, lui, il a trouvé le bon truc. Il faut marcher au milieu du chemin. Il faut quand même. Mais, mes frères et sœurs, suivez votre destin. Suivez votre chemin. Marchez comme Dieu et vous avez décidé que vous devez marcher dans votre passé éternel. Et ne vous mettez pas en souci. Simplement, renoncez au mal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole qui est toujours la vérité, en qui nous pouvons toujours trouver quelque chose qui nous donne un défi pour pouvoir te plaire davantage et être plus satisfait dans notre vie. Merci Jésus de parler à mes frères et sœurs qui écoutent aussi sur Internet. Veuille les fortifier, les aider, quoique il leur est arrivé là ou quoi qu'il arrive dans les jours qui viennent. Merci Seigneur de leur montrer que tu es avec eux, qu'ils puissent entrer en communion d'esprit avec toi. Merci Seigneur Jésus de ce que tu es tous les jours avec nous. Tu l'as dit, on le sait parce que c'est écrit, mais nous avons besoin non pas de le sentir, mais d'en être conscient par le Saint-Esprit. Merci de donner à chacun cette conscience. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Amen.